Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche, nous contemplons le Seigneur ressuscité sous les traits du bon berger. Le berger, en notre cher pays Toy, nous savons ce que cela signifie. Le berger, dans la tradition biblique, est avant tout l'homme des grands espaces. C'est le berger qui contemple la splendeur de la création, qui cultive, tel Adam dans le jardin des origines, cette action de grâce pour la splendeur de ce monde, une action de grâce qui, à travers les forces de la nature qui lui est donnée de constater, témoigne de la puissance de ce Créateur qui a tout organisé, qui a tout ordonné, qui a tout rendu harmonieux. Dans les premières communautés qui ont peuplé ce monde, le berger fut une figure décisive. Tout d'abord, c'est la mission d'Adam dans ce jardin, celle de dompter les animaux, de les connaître, de les domestiquer, de domus, les faire entrer dans sa maison. Le berger commence à connaître ses brebis et a tout d'abord une mission, celle de défendre ses brebis de toutes ces autres bêtes qui en ont après le troupeau. Le Seigneur parle du loup, il est de retour dans la vallée d'Argelès. Nous avons également l'ours et bien d'autres animaux qui viennent justement pour porter atteinte au troupeau. Le berger est avant tout là pour défendre son troupeau lorsqu'il est conduit aux estives, vers ses verts pâturages. Il les conduit, il les dirige, il leur permet, en le suivant, d'accepter cette nourriture de ses verts pâturages. Il veille nuit et jour et prend un grand souci de ce troupeau. Le Seigneur oppose le bon berger au berger mercenaire. Le berger mercenaire, il est juste là pour s'en mettre plein les poches. Il veut bien s'occuper du troupeau, mais au moindre danger, il s'échappe. Ou encore, le Seigneur précise, le berger mercenaire n'est celui qui ne voit seulement que son intérêt dans le troupeau. Le bon berger est celui qui a l'intérêt supérieur de la bonne vie de ce troupeau. Si cette image fut décisive dans l'Ancien Testament et dans la grande tradition antique, c'est que est dessinée là la première figure de l'homme politique, de celui qui va devoir gouverner. Platon, Aristote, toute la tradition biblique témoignent que celui qui doit être à la tête du peuple est comparable au bon berger. Il a une mission, celle de voir loin, celle de conduire son troupeau vers les verts pâturages, faire en sorte, parce qu'il connaît ses brebis, qu'elles n'aillent pas préférer le loup. Nous avons entendu le Seigneur nous dire, non sans gravité, dans le temps du carême, alors qu'il devait entrevoir la noirceur de notre monde, ils ont préféré les ténèbres à son admirable lumière. Voilà la figure choisie entre toutes, pour manifester celui qui doit être roi, celui qui doit gouverner. Prenons deux exemples. Notre patriarche Moïse, avant de faire passer ce peuple tel un bon berger, tenant fermement ce bâton que Dieu lui a accordé, non sans puissance, était tout d'abord berger, gardant à Madian les troupeaux de son beau-père Jéthro. C'est là qu'il va contempler dans la splendeur de la création ce buisson qui brûle sans se consumer et que, s'avançant, il va entendre la révélation du nom de Dieu. Dieu se révèle comme le Dieu ancien, le Dieu nouveau, le Dieu qui va manifester sa force. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de tes pères. Mais je suis celui que je suis au sens fort du terme, je suis donc l'Éternel. » Celui que j'étais, mais celui que je serai. Et le Seigneur de répéter à de nombreuses reprises dans ce livre de l'Exode, « Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, Et ce Dieu est un berger qui conduit ce peuple à travers le désert de ce monde. Un bon berger qui va donner à boire lorsque le peuple est assoiffé. Un bon berger qui, guidant son peuple malgré cette nuée lumineuse dans le désert, va aussi donner la nourriture, va prendre soin du troupeau lorsque celui-ci sera attaqué par les serpents. Mais il est surtout le bon berger qui guide son peuple à travers le désert vers la terre promise, vers cette terre promise qui est la figuration, la préfiguration de la vie éternelle. Mais Moïse contemplera au loin la terre promise par Dieu, mourra avant de pouvoir lui-même y pénétrer. C'est le nouveau Moïse, notre Seigneur Jésus le Christ, le bon berger, à la tête de son peuple, lui qui nous fait passer, non pas seulement comme Moïse, de l'esclavage en Égypte jusqu'à la liberté des enfants de Dieu, le nouveau Moïse nous fait passer de la mort à la vie. C'est lui qui, le premier, entre dans la terre promise, dans la cité sainte, la Jérusalem d'en haut. Et c'est alors qu'à sa suite, en bon berger, il nous attire vers ses hauts pâturages où il nous comblera d'un bonheur sans fin. La seconde image, c'est celle du roi David. David va être choisi. Le prophète arrive dans la maison de son père, Jessé. On lui présente ses frères aînés, grands, forts, beaux, solides. Mais voilà qu'ils n'ont aucun la faveur de Dieu. Et le prophète de demander à Jessé, « N'as-tu pas un autre fils ? Car je suis envoyé par Dieu pour manifester l'onction royale, mais je ne vois pas l'élu. Ah, il me reste bien le petit dernier, il est au champ, il garde le troupeau. » Et lorsque paraît David, les Saintes Écritures nous disent, « Il était beau, il était roux, il avait de beaux yeux, c'est lui que Dieu a choisi. » Ces beaux yeux sont les yeux de la claire vision. Avec le roi David, voilà que le peuple d'Israël ne sera plus un peuple de nomades qui, au gré des saisons, au gré des événements climatiques, guidaient leurs différents troupeaux pour avoir la nourriture. Le peuple va se sédentariser, va s'établir dans des villes. La ville du roi David, c'est la ville de Bethléem. Nous y retrouverons son descendant, le glorieux Saint-Joseph, au jour de la Nativité. Et non loin de Bethléem, voilà que le roi David instituera la grande cité de Jérusalem, où après la tente de la rencontre, qui, Dieu était nomade à ce temps-là, passait également d'une région à l'autre, sera établie dans ce temple que bâtira son fils Salomon. C'est encore un berger que Dieu a choisi pour incarner cette figure royale. Il a reçu l'onction et il va devoir prendre soin du troupeau. Le Seigneur est donc le bon berger, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Parce que toute autorité vient de Dieu, Dieu présente à notre contemplation l'image du bon berger. Le bon berger, je vous ai dit, c'est celui des grands espaces, c'est aussi cet homme de solitude. Une solitude qui est habitée par la contemplation de la création qui ouvre son âme à la prière. Les bergers que nous retrouvons à la crèche de Bethléem, eh bien, viennent reconnaître en lui le Messie, le bon berger. Également, le bon berger est cet homme de la prière et le roi David, avec sa lyre, composera les psaumes, nous rapporte la tradition. Ces psaumes qui font leur manne des actions de grâce, mais aussi des peines et des tribulations de cette vie, autant de cris d'une âme qui présente toutes ses souffrances, sa joie, sa reconnaissance au Créateur, le bon berger qui connaît ses brebis. Et nous, brebis du Seigneur, nous connaissons la voie du bon berger. Alors nous nous laissons avec lui mener. Il nous mène vers les eaux tranquilles. Avec lui, nous affrontons même les ravins de la mort. Mais le Seigneur nous l'a bien dit. Non seulement qu'il n'y aura qu'un seul troupeau, mais le Seigneur nous dit que le bon berger est celui qui est même capable de donner sa vie pour son troupeau. On est bien loin du berger mercenaire qui s'enfuit à la première occasion. Le Seigneur a bien dit, le Père m'aime. Pourquoi le Père m'aime ? Tout d'abord parce que je donne. Il est dans la nature de l'amour de se donner. Dieu étant amour, Dieu se donne. Le Père se donne au Fils, le Fils s'offre au Père. dans le Saint-Esprit, qui est justement le don, l'échange réciproque de l'amour. Le Seigneur nous dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Le Seigneur a donné sa vie terrestre ici-bas, sa vie humaine, semblable à la nôtre en toute chose à l'exception du péché, mais voilà qu'il s'est dessaisi de sa vie, il est ce grain de blé, nous dit-il, tombé en terre, qui doit porter du fruit, mis en terre, ce grain porte du fruit, c'est l'image du bon berger qui reçoit de nouveau sa vie, mais une vie en abondance, une vie qui est celle de l'éternité promise à nos corps mortels. Dans la tradition innombrable de ces visitations que le ciel accorde à la terre, les bergers ont toujours la faveur de Dieu. Nous nous souvenons que notre glorieuse Bernadette a dû quitter la ville de Lourdes pour pouvoir aller sur ce coteau si ensoleillé de Bartrès, si profitable à sa santé, à son âme, comme à son estomac. Elle a gardé quelque temps le troupeau. Bien sûr, la grande Jeanne d'Arc était en train, elle aussi, à Don Rémy, de garder son troupeau. La voyante de Garaison, elle-même, lorsque la Sainte Vierge lui fait ses trois apparitions, était elle-même bergère, gardant son troupeau. Les petits voyants de Fatima, que faisaient-ils ? Ils gardaient également leur troupeau. Cette image est non seulement celle de la figure royale par excellence, celle qui doit guider son peuple, mais c'est aussi, je vous le disais, cette âme d'humilité, cette âme toute ouverte au Créateur qui peut alors faire, dans cette faiblesse apparente à l'image du monde, de grandes œuvres. On ne peut pas suspecter bien longtemps que la science des petits pastoureaux de Fatima ou celle de Bernadette, d'Anglaise de Sagazan à Garaison ou encore ces fameuses voix de Jeanne d'Arc et ses messages viennent d'elle. Non, le Seigneur les a choisis dans leur pauvreté, dans leur simplicité, pour pouvoir délivrer un message. Ils sont ces intermédiaires que le bon Dieu a voulu pour que nous puissions continuer, en des temps troublés, à suivre fermement le bon berger. Nous faisons monter notre action de grâce en ce dimanche vers le Seigneur qui guide son peuple dans l'obscurité de ce monde pour que soit pour nous possible d'accéder à la vie éternelle, cette vive clarté de l'espérance dans la résurrection qui caractérise notre foi et non sans gravité. Nous entendons le Seigneur nous dire, quelques heures avant la Passion, peut-être en entrevoyant le monde de ces jours, « Vous serez comme des brebis sans berger. » Et nous pouvons avoir l'impression, devant les démissions de notre monde, de notre France et même de notre Église, d'être parfois sans berger, capable d'avoir cette claire vision, capable d'avoir cette décision, capable d'avoir cette force d'âme pour nous faire éviter les ravins de la mort et nous conduire vers les hauts pâturages. Eh bien, nous tournons nos âmes vers la belle dame d'Eas, Eas signifie les verts pâturages, puisse la mère du bon berger nous aider à toujours reconnaître la voix du Christ et surtout à se méfier de tous ces bergers mercenaires qui sont là pour nous perdre. Ainsi soit-il.